Je suis donc issu d'une famille musulmane. Mon prénom d'origine, c'est Mohamed. Je suis donc issu d'une fratrie de 5 frères. On est 2 frères et 3 sœurs, 3 petites sœurs. Donc 5 enfants. J'ai grandi donc en Afrique, dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays jusqu'à mes 17 ans. Et en fait, j'ai rencontré le Christ durant ce laps de temps, donc de ma vie, de l'âge de 13 ans jusqu'à mes 17 ans. À l'âge de 13 ans, donc il y a une personne qui est rentrée dans ma vie, qui est un professeur, une personne qui nous donnait des cours de rattrapage à domicile, hein, mon grand frère et moi, et qui s'appelait Pierre, qui est d'origine camerounaise. Ce monsieur a changé ma vie. Sa particularité, c'est que c'était quelqu'un qui était chrétien, profondément chrétien, et qui ne le cachait pas. Donc on est une famille musulmane, mais pas forcément pratiquante à cette période de ma vie, en tout cas quand j'étais petit. On avait des amis chrétiens, juifs, enfin je savais pas, hein, je l'ai appris par la suite, que j'avais des amis, en tout cas de mes parents, qui étaient juifs, pour vous dire, ce qui n'arriverait pas aujourd'hui. Et donc cette personne est arrivée, et donc il se mettait à... Donc c'est une tradition chez nous, quand on reçoit quelqu'un, on lui propose à manger, enfin, c'est comme ça. Tu viens chez moi, j'ai préparé aujourd'hui tel plat, est-ce que ça t'intéresse? Oui, volontiers. Et donc, première chose, premier choc pour nous, ce monsieur faisait le bénédicité. Alors, on avait des amis chrétiens, mais jamais on a vu un bénédicité. Hein. Jamais. Je vous le dis, c'est important. Gardez-le en tête. Donc, manifestation visuelle, hein, de sa foi. Et à partir de là, commence un questionnement. Donc, on commence à lui poser des questions, à lui demander, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je suis chrétien. Ah bon? Vous êtes chrétien, d'accord. Chrétien, et puis, pourquoi vous faites le bénédicité? Et puis, ça s'est un peu étendu. On a commencé à parler de plein de choses. Donc on est parti du bénédicité, on est arrivé à Jésus-Christ. Et donc dans tout ça, il y a eu quelques événements un peu bousculants, on va dire, et tragiques dans la famille. Donc c'est mes parents, donc ça allait pas très fort. Et moi j'étais très jeune, j'avais peur de perdre justement cette joie de vivre qu'on avait dans notre famille, de perdre ce bonheur dans lequel on baignait, parce qu'on était vraiment gâtés comme pas possible. En tout cas, on a vécu des moments formidables. Je garde de très bons souvenirs d'enfance. Et donc, j'avais peur de perdre tout ça. Et quelque part, je demandais de l'aide. Et un jour, donc, Pierre est arrivé et je lui ai demandé directement. Je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin que vous m'aidiez. Ok, pas de problème, je vais t'apprendre à prier. Ok. Donc, on démarre comme ça, tout doucement, hein, au ralenti. Il m'apprend le Notre Père, il m'apprend le Je vous salue Marie, et il me dit, quand tu pries, tu parles à Dieu comme tu parles à un ami. Ok. Et moi, je fais, bon soldat, je commence à prier, et la Vierge Marie, petit à petit, prend une place importante dans ma vie. Et donc, avec Pierre, on est un peu confident, donc moi je lui dis des choses, il me dit des choses, et puis petit à petit cette graine va fleurir, et pour vous donner une image, cette graine va fleurir, et puis le Christ va s'installer dans mon cœur tout doucement. Et là je ne pouvais plus le lâcher, c'était parti pour durer. Lorsque j'ai eu mon bac, Xavier. Lorsque j'ai eu mon bac, il fallait partir, donc je ne pouvais plus rester en Côte d'Ivoire, il fallait partir pour mes études supérieures. Donc mes parents me disent, il va falloir que tu partes, je dis ok. Et dans ma tête, je me disais, mais comment je vais faire? Il va falloir que je rompe la relation avec Pierre. parce que c'est devenu vraiment, au-delà d'une relation d'élève à prof, c'était une relation amicale, fraternelle. C'était devenu un frère, en fait. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est devenu un frère en Christ. On est tous frères en Christ, mais lui, c'était particulièrement fort. Mais il fallait que je parte. Donc, la décision a été prise par mes parents, à la plus grande joie de ma maman, puisque ma maman, pendant tout ce temps-là, elle savait ce qui se passait. Et donc, elle était ravie que je parte pour que ça s'arrête, parce qu'elle voyait bien que son fils était en train de dévier. Et donc, il décide de m'envoyer à Beyrouth, donc au Liban. Donc, c'est mes origines et mes parents sont libanais. Et donc j'intègre l'université Saint-Joseph, donc c'est les jésuites pour mieux comprendre. Et donc à partir de là, une nouvelle vie commence. Donc je me retrouve seul quelque part avec ce que Pierre m'a transmis. Et je continue à prier, je continue à réciter mon chapelet. Et vraiment pendant toute cette étape-là que j'ai passée au Liban, à Beyrouth, la Vierge Marie était omniprésente. Elle était vraiment à mes côtés, à tout moment, à tout instant. À chaque fois que j'étais vraiment très bas et que j'avais vraiment des difficultés et que les choses n'allaient pas bien, Maman Marie, elle répondait présente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis désolé. Enfin, voilà, sinon, là, on est encore là jusqu'à 19h. C'est comme ça. Mais on pourra en discuter, pas de problème. Donc j'ai 5 minutes encore. J'ai passé 4 ans donc avec des hauts et des bas. Et à un moment donné, il y a eu pas mal de troubles. C'était en 2005. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité libanaise, il y a eu l'assassinat d'un ministre qui s'appelle Rafik Hariri. Et à partir de là, le pays a commencé à basculer vraiment, et ça s'est jamais arrêté. Et donc là, moi, j'avais une injonction de quitter le pays. Quelque chose me disait au fond de moi qu'il fallait partir. Et ça s'est confirmé un jour en échangeant avec une de mes profs de macroéconomie. Je sais plus, on discutait de quoi, bon bref. Et elle me dit, Michel, tu n'as pas ta place ici. Oh, bon, ok. Et là, je prie, je confie à Maman Marie. J'ai dit, écoutez, Maman Marie, faut m'aider là, faut m'aider à comprendre où est-ce que je dois aller. Et la France s'impose à moi, parce que je suis de langue maternelle française. J'allais pas partir en Belgique, j'ai fréquenté une école française. Et donc, du coup, naturellement, je m'étais dit, il faut que j'aille en France. Donc, j'ai ma licence en poche, je commence à faire mes papiers, j'arrive à Bordeaux. Et rebelote à Bordeaux, ça recommence. Donc j'intègre une école de commerce. Et là, mon père, deuxième année, 6 mois avant la fin de ma deuxième année, donc me dit, je ne peux plus payer tes études. Enfin, va falloir que tu rentres et que tu travailles et que tu produises comme tout le monde. Voilà. J'ai dit ok. Je confie, pareil. J'ai dit Maman Marie, il faut m'aider. Bref. Les choses se passent, ça finit par se résoudre. Je finis par terminer mon année, je finis par avoir un stage, je remonte sur Paris. Et de là où que là, j'obtiens un poste, peu importe, dans une entreprise ici. Et pendant 3-4 ans, je vis sur Paris, naturellement, comme tout le monde, comme on dit, métro, boulot, dodo. Et un soir, je rentre chez moi et là, grosse dépression, grosse dépression. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Michel? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me mets devant un ordinateur et je tape sur Google, musulman converti. En fait, pour vous expliquer, de mes 13 ans jusqu'à à peu près mes 35 ans, je pensais que j'étais seul au monde. Enfin, je pensais qu'en fait, il n'y avait aucun converti. Il n'y avait personne qui avait vécu ce que j'ai vécu. Et là, coup de théâtre, je regarde les vidéos, je déroule les témoignages, je suis surpris. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne suis pas seul, c'est pas possible. Et donc bref, de fil en aiguille, j'arrive à rencontrer donc une personne au sein d'une association qui n'est plus, c'était fondé par un monsieur qui s'appelle Christophe Bilek, qui est Notre-Dame de Kabylie. Donc c'est un chrétien kabyle, converti depuis plusieurs années. Et donc, bon, on arrive à se rencontrer, on se retrouve dans un centre dans Paris qui s'appelle le Centre Saint-Paul, pour ceux qui connaissent. Donc, je lui ai dit, plus jamais tu donnes rendez-vous à quelqu'un là-bas. Parce qu'en fait, j'avais peur. Et donc, voilà, j'ai pris des précautions, dans tous les détails. Et j'arrive, et donc la rencontre se fait, et donc Mo Christophe est la première personne à qui je vais faire mon témoignage, en fait, depuis toutes ces années. Et à la fin du témoignage, ce que j'appelle témoignage, je ne l'appelais pas comme ça, de mon histoire, Mo Christophe me regarde et puis il me dit, mais mon ami, vous avez lu l'évangile, vous avez un évangile? Je le regarde, je dis, non. Une Bible? Non. Donc j'étais assis sur un bureau, il était en face de moi, j'avais la main sur le bureau, et il était lui-même estomaqué. Il a pris sa main, il l'a mis sur ma main, il m'a dit, cher ami, la Vierge Marie vous a vraiment travaillé. Bref, voilà, à partir de là, arrive le baptême en 2012, donc je suis baptisé chez les frères de Saint-Vincent-de-Paul, et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait j'avais déménagé entre temps, et je me suis retrouvé en fait dans un appartement qui est vraiment, je dirais même pas 2 minutes, à 30 secondes de cette église-là. Donc c'est Notre-Dame de Nazareth dans le 15e, à Porte de Versailles. Donc voilà, je me fais baptiser, ensuite démarre une nouvelle vie où je vais m'investir à Notre-Dame de Kabylie pour accueillir aussi d'autres convertis. Ça va être une formidable aventure, on continue encore aujourd'hui. Je veux terminer en disant que le Seigneur est bon. Sachez-le qu'il y a des choses incroyables qui se passent. Je suis arrivé des fois dans des maisons où on m'a invité pour témoigner, et en fait en discutant avec une personne à côté, donc ça c'est quelque chose de vrai, je vous le dis pour que vous sachiez, et la personne me dit, mais vous savez, ma tante, votre présence, parce que c'est sa tante qui nous accueillait, votre présence aujourd'hui ici, en fait quelque part, c'est la réalisation de ses prières. Et en fait, cette dame-là, elle a prié pendant 10 ans, 15 ans, pour la conversion des musulmans. Alors, et des histoires comme ça, il y en a plein. Le Seigneur travaille, il y a des personnes qu'on rencontre, on s'imagine même pas, en fait, que ces personnes-là pourraient rencontrer Jésus. Et en fait, Dieu est vivant. On a un Dieu vivant, Dieu est vivant. Il est là, il est présent. Mon témoignage, comme le témoignage du Père en début d'après-midi, ou d'autres que vous allez entendre, que vous allez voir, c'est pas, enfin, on n'est pas dans une, on n'est pas dans la science-fiction. Voilà, c'est de la vérité, c'est des choses qui se passent. Dieu est présent. À chaque fois que je l'ai appelé, il était présent. Il était présent. Il est encore présent, et il continue en fait à faire des merveilles. J'avais noté des choses. Voilà, donc en fait, tout ce que je vous demande, moi, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment prier. Prier pour la conversion des musulmans. Prier pour la conversion des cœurs. C'est important. Dieu a besoin de notre prière. Et les choses se font petit à petit. Soyez des témoins, en fait, du Christ. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Xavier l'a dit, le Père l'a dit, tous ceux qui sont passés là, ils l'ont dit. Les musulmans ont soif, ils attendent que ça. Ils attendent que vous veniez les chercher. Donc n'hésitez pas, donnez-leur ce que vous avez. Vous avez un trésor, mais vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte, en fait. Vous avez un trésor inestimable. Inestimable. Ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde, je le dis et je le répète, ça vaut tout l'or du monde. Français, réveillez-vous. Réveillez-vous, je suis là, c'est pas par hasard. Le Père Savadogo est là, c'est pas par hasard. Mon Christophe Bidek est là, c'est pas par hasard. Et je peux terminer, Joseph Fadel n'est pas là par hasard. Et il y en a plein, et il y en a plein, et il y en a plein. On est plein. On est nombreux. Maintenant, à vous d'avancer. On est là pour rappeler que Jésus est vivant. Voilà. Soyez les. Comment dire, je prends toujours cet exemple-là et je termine là-dessus. Quand vous rencontrez quelqu'un de passionné, vous avez déjà rencontré un passionné, passionné de vin, passionné d'art, passionné de jeu, peu importe. Si vous avez déjà rencontré une personne passionnée, quand vous arrivez devant cette personne qui vous parle, qui raconte un peu sa passion, il échange avec vous sa passion, si vous ne connaissez rien, vous serez captivé, vous serez Mais enfin, tout de suite, vous allez rentrer dedans, vous allez aimer, vous allez dire, ah oui, c'est, on entend ça par exemple des fois, moi même quand j'étais jeune à l'école, oh, mon prof de français, mais c'est grâce à lui que j'ai réussi, c'est grâce à lui, c'est par lui que je suis arrivé à faire des études, mon prof de maths, parce que c'est des passionnés. Eh bien, soyez des passionnés de Jésus, c'est ça qu'il vous demande, soyez des passionnés de Jésus. Et quand vous serez passionnés par Jésus, eh bien, quand vous allez en parler, les gens, ils vont le voir, ça va se ressentir. Et ils vont tout de suite vouloir adhérer, ils vont tout de suite vouloir rentrer avec vous. Dire, il est où? Montrez-moi ce monsieur dont vous parlez là. Je veux le voir, je veux le rencontrer, je veux être aussi disciple de Jésus. Merci. Amen.